Radio-Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Rencontre. Attention, le sujet de ce scénario peut choquer certaines personnes et est à déconseiller aux mineurs. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP.
Tu ne me fais pas rentrer ?
Si, bien sûr.
Tu as l'air bizarre. Tu attendais quelqu'un ?
Oui, non.
Il ferme la porte. Ils vont au salon. Là, elle voit sur la table, passe, une bande dessinée et une tablette de chocolat à moitié ouverte.
Tiens, tu lis des bandes dessinées maintenant et tu manges du chocolat. Attention à ton foie.
Charles prend la tablette et la plie dans son emballage.
Ce n'est pas moi qui mange du chocolat.
Elle s'assoit.
Qui est-ce?
Tu veux boire quelque chose?
Pardonne-moi, j'étais indiscrète.
Tu n'es pas du tout indiscrète. Ce n'est rien, j'héberge simplement un jeune.
Donne-moi un bourbon.
Il va au bar le lui chercher.
Tu le connais depuis longtemps, ce jeune?
Il revient avec deux verres et une bouteille qu'il pose sur la table. Il remplit les deux verres.
Tu l'as connue comment ?
Par hasard, dans la rue.
Ah, bon. Tu fais l'armée du salut maintenant ?
Il hausse ses épaules et regarde sa montre.
Tu attends quelqu'un ?
Oui, quelqu'un.
Celui de la bande dessinée ?
Oui,
dit-il agacé. Elle finit son verre et se lève. Il la raccompagne. En passant devant la chambre d'amis, qui est ouverte, elle lui dit
« Il couche ici ?»«
Oui. »
Elle entre dans la chambre, il la suit. Le lit est défait, la porte de l'armoire est entrouverte. Sur la chaise traîne un pull marine. Sur la table de chevet, un cendrier plein, un paquet de cigarettes et un paquet de bonbons ouverts. À terre, au pied du lit, des bandes dessinées. Elle soupire.
Il n'a pas beaucoup d'ordre, ton ami.
Et elle ouvre l'armoire. Voit des vêtements et un jean sur un cintre.
Ça se comprend. Il est jeune, dis donc. À moins que ce soit un nain.
Elle referme l'armoire et sort de la chambre. Il l'a suivi.
Fais attention à la police des mineurs. Et si tu as besoin d'un avocat, appelle-moi, je t'en trouverai un.
Elle l'embrasse et ouvre la porte.
Bientôt.
Il ferme la porte. Il est furieux, mais surtout furieux de voir que Martin n'est pas revenu.
Où est-il, bon Dieu ?
Il a tout juste le temps d'aller au salon que l'on sonne à la porte. Il court ouvrir. C'est lui. Il le fait entrer. Il le tire par le bras et ferme la porte. Il le gifle.
T'as le lapin, non ?
Crie Martin. Il le pousse au salon. Mais une fois au salon,
où étais-tu ?
Ça ne vous regarde pas. Et puis lâchez-moi. Vous me faites mal.
Tout d'un coup, il se sent ridicule. Il le lâche et va s'asseoir dans un fauteuil. Effondré.
Je te demande pardon.
Martin reste debout au milieu de la pièce, les mains dans les poches, il hausse ses épaules.
Mais
j'étais inquiet. Je me suis fait du souci. Tu ne peux pas savoir.
Je suis libre.
Oui, tu l'es. J'avais peur que tu ne reviennes pas. Je t'aime tellement. Alors, viens vers moi.
Lui dit-il en tendant les bras vers lui.
Je t'ai beaucoup fait mal.
Martin s'avance en traînant les pieds. Un peu, oui. Il est tout près de Charles, qui l'entoure de sa taille et pose sa tête sur sa poitrine.
La prochaine fois que tu pars comme ça, préviens-moi. Dis-moi combien de temps tu seras absent. Tu étais te promener.
Non, je suis allé voir des copains pour leur montrer mon blouson. Ensuite, nous sommes allés manger des glaces.
Ils t'ont posé des questions.
Ils m'ont demandé qui m'ont offert tout ça. Je leur ai dit que c'était mon oncle.
Charles l'embrasse la poitrine. Et lui dit,
tu as faim?
Pas tellement.
Charles sourit.
Bien sûr, avec les glaces. Moi, j'ai faim.
Il se lève.
Viens, le déjeuner nous attend depuis ce matin.
Ils ont décidé de commun accord que Martin serait libre d'aller et venir. Charles lui a donné les clés de l'appartement, mais il devra dire combien de temps il s'absente. Malgré sa liberté, Martin ne sort peu. En moyenne, il sort qu'une ou deux fois par semaine. Il dit qu'il va sortir avec des copains. Charles ne s'inquiète plus puisqu'il revient. Et puis, il a tellement de choses à lui maintenant dans sa chambre. Car avec l'argent que lui donne Charles, chaque semaine, il s'est acheté vêtements, gadgets de toutes sortes, bandes dessinées, télé, platine, laser, etc., etc. Un jour, Charles marche dans la rue, Thiers. Il le voit arriver vers lui au milieu d'un groupe de jeunes de son âge. Martin le voit. Il cache son visage en faisant semblant de se peigner. Charles le croise et fait celui qui ne le connaît pas. Cela attriste Charles.
Il a honte de moi. C'est normal. Je suis un vieux. Je ne suis pas vraiment de son monde. C'est la vie.
Lorsqu'ils se revoient, personne ne parle de leur rencontre.
Qu'est-ce que je représente pour lui?
Son corps se serre. Charles a peur que ce bonheur soit précaire. Alors, il s'est acheté une petite caméra vidéo 8 et filme Martin sur toutes les coutures. Au début, cela l'agaçait d'être filmé. Puis, il s'est pris au jeu. Il prend des poses, joue les vedettes. Martin, chaque soir, va se coucher dans sa chambre. Mais une heure plus tard, il va coucher avec Charles. Cela émeut Charles de sentir ce petit corps se blottir contre lui. Un après-midi, qui saute au salon à jouer à la bataille, l'on sonne à la porte. Charles va ouvrir. C'est Denise.
Bonjour, Charles.
Bonjour, Denise.
Il la fait entrer et ferme la porte.
Je ne te dérange pas.
Non, Denise.
Il l'amène au salon. Martin, en les voyant, rougit et se lève.
Denise, je te présente Martin.
Elle s'avance vers lui et lui tend la main.
Bonjour, Martin.
Bonjour madame,
Je suis heureuse de faire ta connaissance, mon petit.
Charles demande, gêné. Tu veux boire quelque chose?
Non, merci.
Asseyons-nous. C'est ce qu'ils font tous les trois.
Cela fait longtemps que vous connaissez Charles.
Martin ne répond pas. Charles répond.
Quelque temps.
Et que fait-il comme étude?
Il a arrêté.
Que veut-il faire plus tard?
Charles soupire. Et lui dit irrité.
Tu es venu pour faire un interrogatoire?
Non, pas du tout.
Il se lève.
Parce que si tu voulais le savoir, nous sommes ensemble. Nous sommes bien ensemble.
Vous êtes amants?
Oui, et tu ne vas pas nous faire de la morale, non?
Oh, que non. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls couples de ce genre. Je dois l'avouer, c'est que je ne sais pas si je serai plus ou moins jalouse d'une femme. Mais tu me diras que je n'ai plus le droit d'être jalouse. Et puis, tu as eu la délicatesse de me demander le divorce pour m'épargner ce genre de choses.
Non, je ne t'ai pas demandé le divorce pour cela. Je ne savais même pas que j'avais besoin de cette affection.
Martin se sent gêné. Il se lève. Et dit, je vous laisse. Denis se lève.
Non, restez. Je m'excuse pour cette scène idiote. C'est moi qui m'en vais. J'étais venu te dire, Charles, c'est que cet été, je n'irai pas à Deauville. Alors, si tu veux, tu peux te servir de la villa.
Merci, Denise.
Elle ouvre son sac à main et en sort des clés. Qu'elle lui tend. Il les prend.
Voilà, dit-elle.
Elle se dirige vers la sortie. Il la suit. Une fois qu'elle est partie, Charles demande à Martin.
« Cela t'intéresserait de partir à Deauville avec moi cet été ?»«
Oh, oui, je n'ai jamais vu la mer. »
Charles est heureux. Pendant un mois, ils seront à Deauville, seuls, rien que lui, loin de ses relations douteuses. Le temps passe, le temps passe. Charles et Martin sont enlacés dans le lit. Charles a du remords. Il a peur de gâcher la jeunesse de Martin. Il a peur que son amour soit la cause de ce gâchis.
Martin, es-tu heureux avec moi?
Oui, très heureux.
Est-ce que ça te gêne que je t'aime?
Non.
Et que nous faisons l'amour?
Non, bien au contraire, j'aime ça. Et Martin se serre très fortement contre lui. Ce que ne sait pas Charles, c'est que Martin aurait honte de faire l'amour avec un jeune de son âge. Il n'oserait pas montrer au jeune qu'il aime son propre sexe. Tandis qu'avec un adulte, il y a la différence d'âge. Cette différence d'âge est comme une différence de sexe, elle la remplace. Aussi, avec les jeunes de son âge, il veut être comme eux, avoir les mêmes goûts, idées, pour ne pas être mis en quarantaine. Le comportement avec un adulte n'est pas le même. C'est deux mondes différents. Ce qu'il faut, ce qu'il fait que même si l'on est différent, cela ne se remarque moins. Beaucoup de jeunes comme Martin pensent comme ça. Et même au-delà de l'adolescence, ils continuent à y penser. Cela a moins d'importance de faire l'enfant devant un adulte que devant des jeunes. C'est pour cela qu'il y a dans la vie de Martin deux mondes à part. Deux mondes à part. Le temps passe. Le jour du départ pour Deauville approche. Charles est tellement impatient de partir qu'il prépare déjà les valises. Et demande à Martin de faire la liste de ce qu'il veut emporter. Nous avons le temps, ce n'est que dans 2 semaines.
Tu n'es pas pressé de quitter Lyon?
Non.
Tu t'y plais à Lyon?
Oui, j'ai des copains, c'est pas mal.
Là-bas aussi, tu te feras des amis.
Ce ne sera pas la même chose.
Ne te fais pas de soucis. Et puis il y a la mer.
Ah ça oui. J'aimerais la mer. Charles pense que Martin doit craindre de se trouver dans un endroit où il ne connaît personne. Un matin, Martin veut quitter l'appartement. Il veut dire au revoir à ses copains. Charles fronce ses sourcils.
J'aimerais mieux que tu ne préviennes personne de notre départ. Si tes parents l'apprenaient, ce serait la catastrophe.
Ne crains rien. Mes copains ne parlent pas. Et puis, si je ne les préviens pas, ils vont demander des nouvelles à ma mère et c'est là qu'on risque d'avoir des ennuis.
Puisque tu le dis.
Martin parti, Charles continue à faire des rangements. C'est pour s'occuper, car il est trop nerveux pour écrire. Au bout d'un moment, il regarde l'heure.
Voilà 3 heures qu'il est parti. Mais sûrement pas tarder à rentrer.
Mais l'heure du déjeuner passe. L'heure du dîner approche. Charles, énervé, fait les 100 pas dans le salon.
Mais que fait-il? Où est-il? Il va m'entendre celui-là, tiens.
Il soupire.
Je ne saurais même pas où chercher.
Il s'arrête.
Réfléchit. Non, ce n'est pas possible. Il a tout ce qu'il lui faut.
Il reprend sa marche. Le soir est tombé. Charles n'y tient plus. D'un bond, il s'habille et sort de l'appartement. Dehors, il fait doux, les gens flânent, se dirigent vers les quais pour aller derrière l'opéra. Là, il retrouve où il l'a vu pour la première fois. Le cale ou machine à sous est encore ouvert, il y a quelques jeunes à l'intérieur. Un jeune d'une vingtaine d'années, maigre, poulain, brun, en jean, va devant Charles, s'arrête et lui dit:
vous cherchez de la compagnie?
Quoi?
Oui, je vous vois aller venir ici. Alors je pense que vous cherchez de la compagnie.
Tu veux quoi?
Une pipe, c'est 200. Enculé, 500.
C'est quoi que tu veux?
Cherche un jeune, une quinzaine d'années, blond. Il s'appelle Martin.
Ah, c'est lui que tu cherches?
Il a une moins belle queue que moi, tu sais. Et puis, il est mineur. Fais attention.
Non, mais c'est pas lui. C'est lui que je veux. Tu sais où il est.
Il n'est pas ici. Il doit être...
Tu sais, le parking. Sous les quais, là, juste en face. J'ai vu tout à l'heure avec un client. Attends-le ici, il reviendra. De toute façon, il va faire des... passe toute la nuit. Parce qu'après il part à la campagne. Allez, je te laisse. Et s'éloigne.
Charles a la tête qui tourne, les oreilles qui bourdonnent, le corps qui bat.
Il se plaque contre le mur du porto tombé. Il attend. La nuit est là. L'enseigne Coca-Cola éclaire la rue. Il n'attend pas longtemps. Un quart d'heure. Il le voit marcher, les mains dans les poches, une cigarette aux lèvres. Charles a chaud, ne peut s'empêcher d'avoir mal et même de le désirer.
C'est étrange la nature humaine, la colère, le désir de perdre, de fuir, d'aimer, tout s'embrouille.
Juste au moment où Martin va le dépasser, il a juste la force de l'appeler.
Martin!
Le jeune sursaute, se tourne.
Que fais-tu là, Martin?
Juste au moment où Martin va dire quelque chose, il l'arrête.
Je sais, ne me mens pas.
Alors, je suis libre, non?
Je n'ai jamais entièrement libre de ses faits et gestes. Ça peut faire du mal à quelqu'un, tu sais.
Martin aux épaules. Je veux être libre.
Tu fais cela pourquoi? Pas assez d'argent?
Martin le regarde d'une façon dédaigneuse et lui dit « Non, parce que j'aime ça. » Charles voit que ça ne sert à rien de discuter plus longtemps. Les dés sont jetés.
« Je t'aime, tu sais. Tu es libre de mener la vie que tu souhaites. Mais ne reviens plus jamais chez moi. Et ne me demande plus rien. Tu as choisi. »
Martin fait le geste de partir. Charles le prend par le bras.
Attends, laisse-moi te regarder.
Il regarde bien. Ce petit visage beau comme un ange, déjà têtu.
Maintenant, va-t'en. Va-t'en.
Il le lâche. L'enfant s'éloigne. Voit qu'il a tourné la rue. Charles s'éloigne à son tour. Charles s'éloigne à son tour. Arrivé chez lui, il s'est couché avec deux comprimés pour dormir. Le lendemain matin, il s'est réveillé à 9h, la langue porteuse, l'esprit vague. Son instinct de conservation l'a empêché de réfléchir. Mécaniquement, il a vidé ses valises. Ranger ses affaires et nettoyer la chambre de Martin. Il ne reste rien du passage de Martin. Petit à petit, il a repris ses habitudes et s'est même remis à écrire.
Il n'y a que dans les romans que l'on trouve les vraies histoires d'amour. Alors, écrivons-en une.
Semaine plus tard, vient le voir Denise.
Bonjour Charles.
Bonjour Denise.
Je suis venu pour avoir de tes nouvelles. J'ai téléphoné à Deauville et à rien. Pourquoi n'es-tu pas parti?
Je n'avais plus envie de partir.
Elle le voit maigri, vieilli. En passant devant la porte de la chambre d'amis, pour aller au salon, elle est entrebâillée et voit qu'elle est nette, comme s'il n'y avait personne pour l'habiter.
Et ton ami,
il est parti.
Elle lui tape les mains amicalement. Ils s'assoient au salon, l'un en face de l'autre.
Tu es triste qu'il t'ait quitté?
Pas vraiment, non. C'est moi qui l'ai fait partir.
Ah, oui.
Oui, il avait un mauvais comportement.
Et que vas-tu faire maintenant?
J'ai repris ma vie de célibataire. C'est ce qui me convient le mieux.
Elle se dit qu'il souffre et qu'il faut l'aider, ne pas le laisser seul et le distraire.
Écoute, puisque tu es libre, et que tu devais partir. Pourquoi ne pas partir?
Charles ose les épaules.
Et que ferais-je tout seul?
J'ai justement une conférence à donner à la fin de la semaine à Venise. Tu pars avec moi. Nous faisons l'Italie. Qu'en dis-tu? Il ne dit rien. Cela t'ennuierait tant de partir avec moi, comme deux vieux amis? Dis oui. Vérone, Naples, Rome, non? Il sourit, dit oui. Elle sourit, elle embrasse sur les joues.
Deux jours plus tard, ils sont partis. Venise, elle a donné sa conférence et ils sont partis visiter la ville d'Italie avec une voiture louée. Dès le deuxième jour, Charles se sent mieux. Le dépaysement, le soleil lui rendent sa bonne humeur. Il n'y a que la nuit, seul dans sa chambre, où il sent une douleur à la poitrine qui lui rappelle Martin. Denise est heureuse et se dit que peut-être elle pourrait le reconquérir. Leur divorce avait été fait à l'amiable. Ce n'est pas facile de vivre en couple lorsque l'on est écrivain et l'autre sillonne les routes pour des conférences. Quant à l'histoire du jeune, elle n'en prend pas ombrage. Une parenthèse à sa vie sentimentale. Ça ne devrait pas être si grave que cela.
Dadju!
Après leur retour, ils décident de se voir le plus souvent. Charles a l'air bien et semble avoir oublié Martin.
Denise charmante et pense se remettre avec elle. Il a recommencé à zéro son roman qui est devenu les retrouvailles d'un vieux couple qui s'était perdu de vue et décide de repartir faire un voyage en Italie. Tout va pour le mieux.
Le temps passe.
Un soir, Charles est à son bureau à écrire. L'on sonne à la porte. Il va ouvrir.
C'est Martin, la mine défaite. Charles a le cœur qui bat. Il le désire et en même temps il se dit
« Non, il est revenu pour de l'argent. Si l'on le revoit, tout recommencera. »
Martin ne dit rien.
« Que viens-tu faire ici ?» Je t'avais dit que je ne voulais plus te revoir.
Et il ferme la porte.
Se plaque le dos à la porte. Essaye de reprendre son souffle. Il aimerait pleurer. Puis... tout d'un coup, il court à la fenêtre du salon. Soulève les rideaux. Il le voit, la rue mouillée, marchant sur le trottoir, la démarche déglinguée, perdue.
Il fait le geste d'ouvrir la fenêtre. Mais... Et de le rappeler, mais l'enfant a disparu.
C'est peut-être aussi bien comme ça. Un fantôme, mais Pat est apparu. C'est tout.
Et essaye d'oublier. Mais ce n'est pas facile. Il ne peut plus écrire. N'a goût à rien.
Cela va passer. Un mauvais moment a passé. Heureusement que Denise est partie en tournée. Je n'aurais pas eu le courage de la voir. Mais dans une semaine, tout ira mieux. Dans une semaine, tout ira mieux. Tout ira mieux. Tout ira mieux.
Deux jours plus tard, il reçoit une convocation au commissariat. Il y va. Le commissaire le reçoit à son bureau. C'est un gros homme, à cheveux gris. Il semble avoir vu beaucoup de choses. Monsieur Charles Destin, asseyez-vous, je vous prie. C'est ce qu'il fait. Voilà, monsieur, je vous ai fait venir parce que j'ai un problème d'identité. Dans une chambre d'hôtel minable rue Sainte-Catherine, un jeune adolescent a été poignardé. Il est mort de ses blessures. Il n'avait pas de papier sur lui, sauf votre carte de visite. Charles a le cœur qui bat. J'aimerais, c'est que vous puissiez venir avec moi à la morgue pour voir le cadavre et me dire si vous le connaissez. Charles est tout pâle. Je sais, ce n'est pas drôle, mais il le faut. Le commissaire se lève. Allons, monsieur. Plus vite ce sera fait, plus vite nous serons débarrassés. Je vous paierai un verre après. Charles se lève. Il a les jambes qui tremblent. Il suit le commissaire. À la morgue, un homme leur ouvre un casier. Où se trouve Martin, dans un sac en plastique transparent. Charles le reconnaît. Il est pâle, mais toujours aussi beau. Le corps nu, avec une entaille à la poitrine. Vous le reconnaissez, monsieur ?
Oui.
Qui est-ce ? Charles s'évanouit. Le commissaire le retient. Lorsqu'il reprend ses esprits, il est assis sur une chaise dans le couloir. Vous allez mieux ? Le commissaire est en face de lui.
Comment est-il mort ?
L'assassin a tout de suite été pris. Les bruits avaient inquiété les hôteliers qui ont appelé la police. Nous sommes arrivés, c'était fermé dans la chambre, paniqué de ce qu'il venait de faire. Après discussion, il est ouvert. C'était un arabe, un jeune d'une vingtaine d'années. Effondré, il nous a tout raconté. Le jeune tapinait et en plus il se droguait. Il a pris une dose qu'il n'a pas payée. L'arabe a fait un client pour lui faire cracher son argent.
lorsqu'il a vu que le jeune n'avait pas d'argent, il l'a tué.
Charles lui dit,
« Non, c'est moi qui l'ai tué. C'est moi. »
« Qu'est-ce que vous racontez là ?» Le commissaire lui tapote l'épaule et lui dit,
« Vous l'aimiez, je comprends.
Je comprends la vie, vous savez.
Comment s'appelait-il ?»«
Martin. »
« Comment ?»«
Martin, tout court. »
« Son domicile ?»«
Chez moi. »
« Vous êtes son père ?»«
Oui. »
« Pardonnez-moi, mais je n'ai pas compris. »«
Son père, oui. »
« Vous avez des papiers le prouvant ?»«
Non. » »«
Alors, et sa mère ?»«
Je ne sais pas. » »«
Allez, dites-moi la vérité. » »« Vous avez eu un choc, je comprends. »«
Je suis son père et je l'ai tué. »
Le commissaire, voyant qu'il n'y avait rien à en tirer, lui dit de rentrer chez lui et de revenir demain faire les déclarations. Il se lève et ils sortent de la morgue. Charles est retourné derrière l'opéra. Là, contre un mur, il y a un jeune de 17-18 ans, roux, taille moyenne, le visage agréable. Il est en jean et chemise à carreaux à dominance rouge. Tu cherches compagnie ?
Oui.
C'est 200.
Oui, je sais. Je te donne 2000. Si on va à l'hôtel.
D'accord.
Attends. Tu sais le jeune qui a été poignardé dans la chambre d'hôtel ?
Oui, tout le monde en parle.
Tu sais où est l'hôtel ?
Oui.
Bien, on y va et on prend la chambre où il est allé.
Je n'aime pas ça. Charles sort les 2000. Le jeune tend la main.
Non, on y va.
Bon, on y va. Ils sont allés rue Sainte-Catherine.
Le jeune lui montre l'hôtel. Il est minable. Une étoile.
Enfin, une étoile. Si l'on veut.
À l'entrée se trouve un petit homme chauve.
Charles fait signe au jeune qu'il demande la chambre.
J'aimerais la chambre 14.
Le vieux est surpris.
Tu es sûr ?
Oui. Le vieux lui donne la clé.
Premier étage.
Le jeune et Charles montent à l'étage.
Leur court après une bonne pour leur donner 2 serviettes de toilette.
Le lavabo se trouve dans la chambre. Le savon y est. Elle redescend.
Un long couloir miteux qui sent la poussière et l'eau de Javel.
Chambre 14. Le jeune l'ouvre. Et ils entrent.
Pièce rectangulaire, presque un couloir. Un lit en fer, dessus de lit rouge, table de nuit sans âge, chaise bancale, rideau aux fenêtres, et derrière, un paravent, un lavabo. Charles a le corps qui bat. Le jeune ferme la porte. Il se met devant Charles, les mains sur les hanches. Et lui dit, « Tu as l'argent ?» Charles le lui donne. Qu'est-ce que tu veux faire?
Déshabille-toi et allonge-toi.
Charles le regarde se déshabiller. Sur le dessus du lit. Les bras sous la nuque, les jambes écartées, le sexe ne manque pas. Tu ne te déshabilles pas? Charles fait non de la tête. Il regarde autour de lui, il a les larmes aux yeux, il s'approche du lit. Se penche. Le jeune a les yeux mi-clos. Charles sort de la poche de son manteau un couteau qu'il a acheté. Et avant que le jeune ne réagisse, un coup en plein corps. Le jeune ne bouge plus. Il a le regard grimaçant. Charles se soulève. Le haut de son manteau est taché. Il s'assoit au pied du lit.
Comme cela, l'on me croira que c'est moi, ton assassin.
Charles, en tuant le jeune, dans la même position que tu, Martin, avait été tué, il sait qu'il sera jugé par les hommes du crime de l'autre, mais pour lui, ce sera pour celui de Martin.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Rencontre, dont c'était la deuxième partie. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement,